3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bonjour à tous et bienvenue à Programme Double, un podcast qui est diffusé une fois ou deux semaines et dans lequel je vais vous présenter deux films qui sont reliés soit par une thématique, une franchise, un acteur, voire même un réalisateur. Le but de ce podcast n'est pas de vous dire ce que vous devez écouter, mais plutôt d'analyser les forces et les faiblesses de chacun des longs-métrages présentés, tout en vous racontant certaines anecdotes de la production, le tout enrobé d'une sauce très rétro. Le jeu d'échecs est un jeu de société qui fut introduit dans le sud de l'Europe à partir du 10e siècle par les Arabes. Ce jeu est composé d'un tablier composé lui-même de 64 cases, soit 32 clairs et 32 sombres, sur lequel se trouvent plus de 32 pièces totales de couleurs blanches et noires et dont le but est d'infliger à son adversaire un échec et mat en prenant la pièce maîtresse de ce dernier, soit le roi, à l'aide d'une série de manœuvres bien calculées par ses autres pions. Le terme « échec et mat » vient du mot « sa-mata » qui se traduit par « le roi est mort » pour indiquer la défaite du roi. Les règles actuelles sont fixées à partir de la fin du 15e siècle et ce jeu de réflexion deviendra alors l'un des plus populaires au monde. Il est aujourd'hui pratiqué par des millions de gens sous de multiples formes, en famille, entre amis, dans des lieux publics, en club, en tournoi, par correspondance, contre des machines spécialisées, entre ordinateurs, entre programmes et sur Internet. La compétition aux échecs existe quant à elle depuis ses origines, mais le tout premier tournoi de l'ère moderne a lieu à Londres en marge de l'Exposition universelle de 1851. Le premier champion du monde d'échecs est Willem Stenitz en 1886 et celui actuel est le Norvégien Magnus Carlsen depuis 2013. Au centre de notre programme double d'aujourd'hui, un champion du monde sera l'inspiration d'un film et d'une mini-série qui seront considérés par plusieurs comme étant les deux meilleures œuvres touchant le monde des échecs. Robert James Fischer, dit Bobby Fischer, naîtra à Chicago le 9 mars 1943 et deviendra le champion des États-Unis dès l'âge de 14 ans en 1958 avant de devenir champion du monde en 1972 en remportant sur fond de guerre froide le match du siècle à Reykjavik en Islande face au joueur soviétique Boris Spassky, mettant un coup d'arrêt à la domination russe dans le championnat du monde des échecs depuis 1948. Cette victoire allait transformer Bobby Fischer en un véritable icône dans son pays et allait provoquer le retrait de ce dernier de la compétition en 1975 sans perdre son titre qui deviendra alors vacant. Donc, sortez votre échiquier et protégez votre roi, car je vous propose ici un voyage incroyable à travers deux longs métrages qui se servent de ce jeu de logique afin de nous présenter non seulement la pureté de ce sport intellectuel, mais également les difficultés dans la vie de tous les jours et la pression extérieure mise sur ces joueurs phénomènes par une société qui n'y voit ici qu'une source de fierté patriotique.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Delicious things to eat.
The popcorn can't be beat.
The sparkling drinks are just dandy. The chocolate bars and the candy. So let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
The show is about to start. Thank you for your cooperation. Enjoy the show, and please come back and visit us again. And now, it's showtime.
C'est déroutant, tu ne trouves pas? Quand on s'aperçoit qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait leur enseigner, et en fin de compte, ils restent ce qu'ils sont.
On est allés au parc tous les trois.
Échecs.
Il a joué aux échecs.
Joss ne sait pas jouer aux échecs. Il ne sait même pas attacher ses lacets.
J'ai fait une partie d'échecs avec mon papa. C'est un jeu comme le Monopoly.
Dans un monde qui est fondé sur la compétition, pourquoi voulez-vous que votre fils se perfectionne?
C'est pas moi qui veux. C'est lui, d'ailleurs, il a appris tout seul.
Dans un jeu où la victoire est capitale,
dites-moi, le futur Bobby Fischer est-il ici parmi nous?
Un défi vient d'être lancé.
Votre fils crée comme Fischer. Il a le sens du jeu. C'est en lui.
Tu dois pas jouer en ayant la trouille. Tu dois risquer des coups. Tu dois tout risquer.
Je me demandais si vous pourriez l'empêcher d'y jouer.
Non. Il serait beaucoup trop malheureux de ne plus y aller.
Ça rend mon travail plus dur.
Ah, il sera plus dur.
Oui, c'est ça!
Allez, t'as gagné.
Mon fils a un vrai don. Il est meilleur aux échecs. Que je ne l'ai été pour quoi que ce soit de toute ma vie.
Tu dois mépriser chaque adversaire que tu rencontres. Parce que si tu crois que ce n'est pas indispensable, tu te trompes.
Joue ou couche-toi.
Tu dois les haïr.
J'ai rien contre eux.
Eux te haïssent. Ils te détestent, tu sais.
Sortez de ma maison.
Rabâcher à un petit garçon qu'il doit s'efforcer de gagner sans l'y préparer est une erreur.
Plus je progresse, et plus je dois faire de progrès.
C'est l'unique façon de gagner.
C'est peut-être mieux quand on n'est pas le meilleur.
Ça va mal!
Ne déplace rien avant de voir.
Il n'a pas peur de perdre aux échecs. Il a peur de perdre ton amour.
Pardon, papa. J'ai tout raté, je le sais.
Et il sait que tu le trouves faible. Mais il n'est pas faible. Il agit avec décence. Et si vous essayez, toi ou Bruce, ou qui que ce soit, de le faire se comporter autrement, alors je vous le jure, je vous l'enlèverai.
Joe Mantegna, Laurence Fishburne, Joan Allen, Max Pomerantz et Ben Kingsley. À la recherche de Bobby Fischer.
Tu joues drôlement mieux que moi à ton âge.
Searching Bobby Fischer ou À la recherche de Bobby Fischer est un drame américain distribué par les studios Paramount Pictures le 11 août 1993. D'une durée de 110 minutes, ce film coûtera plus de 12 millions de dollars à produire, mais ne rapportera que 7,2 millions au niveau du box-office international. Derrière le poste de réalisateur, nous retrouvons le metteur en scène Steven Zaillian, qui nous a donné A Civil Action et All the King's Men, et dont il s'agit ici de la première réalisation. Au niveau du poste de producteur, on y retrouve William Horberg, ce producteur américain qui nous a donné The Talented Mr. Ripley et qui est également le producteur exécutif de l'autre production dont nous allons parler aujourd'hui, The Queen's Gambit. Steven Zaillian sera également responsable de l'écriture du scénario, lui qui avait travaillé sur les scénarios de Schindler's List, Awakening et Moneyball. Pour la distribution, eh bien, on y retrouve le jeune Max Pomerantz, Joe Mantegna, Joan Allen, Ben Kingsley, Laurence Fishburne, William H. Macy et Laura Linney. Lorsqu'ils découvrent que leur jeune fils de 7 ans, Josh, a des aptitudes pour le jeu d'échecs, Fred et Bonnie Watkin engagent un ancien champion pour que ce dernier lui donne des cours privés. L'enfant progresse rapidement et devient bientôt le meilleur joueur américain dans sa catégorie. Omnibulé par le succès du gamin, le père de celui-ci, ainsi que son professeur, le pousse sans relâche à s'améliorer et lui interdisent de fréquenter son ami Vinny, un joueur qui favorise, lui, le jeu instinctif au détriment de la réflexion. Cette course à la perfection finit par rendre l'enfant anxieux, celui-ci appréhendant le jour où il perdra son titre de champion.
Fred Wetskin, père du jeune prodige des échecs Joshua Wetskin, décide d'écrire un livre biographique sur ses expériences et celles de son fils. Croyant sincèrement que ce dernier serait le successeur du joueur professionnel d'échecs Bobby Fischer. Sorti en 1988 sous le titre « Searching for Bobby Fischer, The Father of a Prodigy Observes the World of Chess », le livre sera très bien accueilli par les critiques et Paramount Pictures s'appropriera alors les droits cinématographiques de l'œuvre. On embauchera alors le scénariste Steven Zaillian, qui travaillait également sur le scénario de « The Schindler's List », et à qui on offrira également le poste de réalisateur, une première pour lui dans sa jeune carrière. Pour incarner le jeune héros de son film, le réalisateur voulait un acteur qui savait jouer aux échecs. C'est pourquoi il a porté son choix sur le jeune Max Pomerantz, qui faisait ici ses débuts sur le grand écran et qui était également un excellent joueur d'échecs. Afin de pouvoir compenser pour son manque d'expérience, Zaillian entoura alors le jeune homme d'acteurs de renom tels que Ben Kingsley, Laurence Fishburne, Joan Allen, William Macy, Laura Linney et bien sûr l'acteur Joe Mantegna. Mais Pomerantz livrera alors une prestation extraordinaire qui surclassera cette gamme de grands comédiens et lui vaudra même le prix du meilleur jeune acteur au Festival international du film de Tokyo en 1994. Durant la production, le réalisateur allait faire appel à des membres de la famille Wetskin, incluant le véritable Joshua Wetskin, qui obtiendront des caméos dans le long métrage, tout comme plusieurs véritables joueurs professionnels du monde des échecs, tels que Angelina Belakovskaya, Joel Benjamin, Cameron Shiradi, Bruce Pendolfini, Paul Mickleton et Russell Garber. Pour le personnage de Vinny, interprété par l'acteur Laurence Fishburne, le scénariste-réalisateur Steven Zaillian se basera sur trois personnages véridiques qui étaient de véritables joueurs d'échecs afro-américains qui jouaient dans des parcs extérieurs pratiquement tous les jours. Le premier était le véritable Vinny Livermore, qui décédera du sida en 1992. Le second, Paul Mickleton, un arnaqueur de renom qui savait survivre dans le monde difficile de la rue. Et finalement, Jerry, un vieil homme cynique ayant un passé trouble, mais dont la philosophie était simple et sage. Durant la partie d'échecs finale, c'est le véritable Josh qui, assisté de son mentor Bruce Pandolfini, qui orchestra le match. Cette rencontre entre Wetskin et Jonathan Poe, dont le personnage était basé sur le véritable adversaire de Josh à cette époque, soit Jeff Sauer, se terminera par un match nul et les feuilles de pointage ne furent pas conservées. Sauer allait remporter le titre du monde pour les garçons de moins de 10 ans en 1986, alors que sa sœur Julia remportera le même tournoi, mais pour les filles de moins de 10 ans la même année. Sorti aux États-Unis en 1993 sous le titre « Searching for Bobby Fischer » et connu aussi sous le titre « Innocent Moves » en Angleterre, le film sera nominé aux Oscars pour la meilleure cinématographie en 1966, mais perdra contre « The Schindler's List » sorti la même année. Cependant, il remportera un prix dans cette même catégorie au American Society of Cinematographers, présenté cette même année. Si à l'époque, le jeune Joshua Wetskin était encore destiné à un brillant avenir en devenant champion à l'âge de 16 ans, ce dernier n'aura pas la carrière espérée et il a arrêté de participer à des compétitions en 1999. Du côté du véritable Bobby Fischer, qui n'a jamais vu le film avant sa mort, l'homme qui avait alors sombré dans un délire conspirationniste va se plaindre que l'utilisation de son nom était une invasion de sa vie privée et qu'il s'agissait d'une conspiration juive pour souiller son nom et faire de l'argent à ses dépens. Fischer prétendra n'avoir jamais reçu de compensation pour l'utilisation de son nom dans le titre du livre ou de son adaptation cinématographique. « Searching for Bobby Fischer » est listé au 96e rang dans la catégorie des 100 meilleurs cheers du American Film Institute Cinema. Du côté des points positifs, eh bien que le film soit basé sur les échecs, c'est vraiment l'aspect humain qui nous est présenté ici d'une manière crue et sensible. D'ailleurs, il y a beaucoup de points qui sont extrêmement importants. tout d'abord la perte de l'enfance, où ce petit garçon décide par sa propre volonté d'abandonner son enfance pour devenir un adulte précaire lorsque ce dernier se doit de choisir entre une balle de baseball, qui représente le jeu et l'évolution normale d'un jeune gamin de 10 ans, et ce pion d'échecs qu'il va trouver et qui représentera sa décision personnelle de quitter ce monde de l'enfance pour pénétrer de plein fouet dans le monde adulte de la compétition, mettant ainsi un terme à sa vie normale. L'autre point aussi qui est important à souligner, c'est la manipulation des adultes. Une manipulation où on voit le jeune Joss qui va remarquer que son père, ainsi que son professeur d'échecs, qui est interprété ici par l'excellent Ben Kingsley, cherchent soit à vivre un passé qu'ils n'ont jamais pu avoir ou encore tout simplement retrouver une gloire qu'ils ont perdue. D'ailleurs, le scénario s'attache notamment à fouiller la psychologie des adultes pour qui la victoire compte beaucoup plus que les efforts accomplis par leur progéniture. De plus, le film s'amuse à nous présenter des adultes qui sont de véritables enfants, alors que les enfants, eux, sont représentés ici comme les véritables adultes. On peut voir à un moment un exemple lorsque les parents qui commencent à chamanier pendant une compétition de jeunes enfants au niveau des échecs, eh bien, sont expulsés de la salle, provoquant les applaudissements de ces tout-petits qui, eux, ne désirent que s'amuser aux échecs. Finalement, le sens de la moralité qui va apparaître ici sous les traits de la mère de Josh, qui prend continuellement sa défense, ou encore de ce joueur de rue Vinny, interprété par l'acteur Laurence Fishburne, qui s'inquiète continuellement de la santé physique et mentale de l'enfant et de savoir comment ce dernier se sent, démontrant à ce dernier que les échecs, c'est avant tout un jeu et qu'il doit toujours demeurer lui-même, ce qui lui permettra quand même de vivre une vie tout à fait normale, malgré cet univers tout à fait compétitif. D'ailleurs, c'est ce qui est admirable avec le film de Searching Bobby Fischer, c'est que Josh va jamais perdre cette notion de faire le bien autour de lui, malgré l'aspect très élevé compétitif autour de lui. Et lorsque son professeur d'échecs va lui montrer qu'il doit voir ses adversaires comme des ennemis et qu'il doit les détruire, celui-ci ne cesse de répéter qu'il n'haït pas son entourage, même si ceux-ci le détestent parce qu'il est excellent. Finalement, lorsque l'on arrive à la fin du long-métrage, on va en apprendre beaucoup plus sur la nature humaine que sur le sport des échecs comme tel. Du côté de la distribution, écoutez, celle-ci est totalement parfaite et les acteurs sont véritablement à la hauteur de leur rôle. Spécialement le jeune Max Pomerank, qui est excellent ici et qui nous présente un jeune garçon dont la psychologie effacée est extrêmement complexe. De plus, le réalisateur dont il s'agit ici de la toute première œuvre sait exactement comment diriger le jeune garçon plein de talent afin que ce dernier soit capable de faire passer ses émotions à travers des gestes ou des expressions faciales très discrètes. De plus, le montage dynamique et inventif va permettre de tenir le spectateur en alerte et ce, malgré le fait que le spectateur ne connaisse pas nécessairement les règles du jeu d'échecs. Le scénario, lui, qui s'efforce d'analyser les enjeux de la compétition lorsqu'elle affecte la vie d'un enfant, est vraiment écrit ici d'une façon extrêmement intelligente et le film se laisse voir facilement, même si vous ne connaissez pas le jeu des échecs. Mais cependant, il y a des points négatifs, notamment le rythme qui est extrêmement lent. On est ici en train de regarder un drame, donc c'est pas un film d'action. Et malgré le fait qu'au niveau de la partie des jeux d'échecs, on a quand même un rythme qui nous permet à toujours garder un intérêt dans les parties, c'est plutôt ce qui se passe autour de la partie des échecs qui nous intéresse. Mais pour les gens qui aiment pas vraiment les films qui bougent pas beaucoup, ça peut donner justement des longueurs que certains pourraient trouver ennuyants, malgré que personnellement, je trouve que c'est ce qui donne le charme à Searching Bobby Fischer parce que ça nous donne le temps de vraiment bien comprendre la situation. Et c'est surtout ce qui est amusant au niveau du scénario, c'est que c'est l'humour qui nous permet justement de pouvoir compenser pour ces moments de longueur. Je trouve que le personnage de la mère est malheureusement mal développé ici. Celle-ci est la protectrice de Josh, comme je disais un petit peu plus haut, mais elle est juste utilisée quand elle a besoin d'être utilisée. On nous montre pas comment que la jeune femme va accepter de permettre à son jeune enfant de jouer aux échecs ou encore comment qu'elle va accepter que ce dernier aille communiquer avec des joueurs de rue alors qu'au début, elle ne voulait pas qu'il les côtoie. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'elle a accepté de s'en aller dans cette direction-là? C'est pas expliqué et ça, c'est peut-être quelque chose que je trouve dommage parce que si on avait plus développé le personnage de la mère, je crois qu'on aurait pu encore beaucoup mieux comprendre l'évolution de Josh. Et là-dessus, bien, John Allen fait un job tout à fait extraordinaire. Pour le reste, bien, Searching Bobby Fischer est un spectacle qui nous est trop rarement donné de regarder. Un long métrage qui va traiter son spectateur avec respect et surtout intelligence. Donc, c'est un film qu'il vous faut absolument regarder. Du côté de la musique, c'est le musicien James Horner, ce compositeur américain qui nous a donné des trames sonores de Aliens, Cocoon 1 et 2, Crawl, Commando, Willow ou Field of Dreams, qui nous donne ici une trame sonore vraiment sublime. La trame sonore, d'ailleurs, instrumentale de Horner est disponible sur CD sous l'étiquette Big Screen Records. Il y a une version Expanded Edition qui est disponible depuis 2015 à seulement 3000 exemplaires sous l'étiquette La La Land Records. Je vous présente ici un extrait musical de Searching for Bobby Fischer.
A tempting treat? Hold on till I absorb some heat. Some added tang might please you too. I'll slide into an oven fresh bun, and I'm ready for your eating fun.
Why don't you try a juicy good hot dog? Mmm, delicious.
Our hamburgers are the finest quality beef expertly prepared for extra deliciousness. Treat yourself royally right now. Mmm, what a hamburger.
It's great being on the drive and watching Super Flick and eating all this great food.
This flick is making me hungry.
It makes me want to flick my bick.
We should have gone to the drive-in where we could eat and flick to our heart's content.
Well, what are we waiting for?
Well, come on then. I'm going to have a pizza and popcorn and ice cream.
And I'm going to have a burger with fries and a soft drink.
Yum, yum, yum.
This was a great idea.
Yeah.
Our tempting, tasty French fries go with everything. Come and get them. They are hot. They are delicious.
Zoom! It's Zoom, the new iced space lolly with three fruit flavor stages. And there's a space picture card with every Zoom. Get your Zoom now.
This is what S&H pink stems can mean to you. These are a few of the things you can get with S&H pink stamps, the world's leading trading stamp company. Would you like to see some more? Why don't you save S&H pink stamps? Shop wherever you see this sign.
And now, on with the show.
Rated X.
Get more out of life. Go out to a movie.
Des hommes vont venir, ils voudront apprendre des choses. Or, ça ne les rend pas plus intelligents. Alors laisse-les parler. Et continue à faire exactement comme tu l'entends. Un jour, tu verras, tu seras seul. Tu dois donc apprendre à te protéger et à prendre soin de toi.
Pouvez-vous dire au lecteur de Life ce que ça fait ? Je veux dire, être une femme au milieu de tous ces hommes.
Je m'en fiche. On n'est pas tout le temps en compétition. Les échecs peuvent également être magnifiques.
Vous êtes orpheline, Bess.
J'aime bien être seule. Je me sens en sécurité. C'est tout un univers qui se retrouve dans 64 cases.
Mademoiselle Hormone, Bess.
Psychose et créativité vont très souvent de concert. D'ailleurs, c'est pareil pour le génie et la folie. Il n'y a pas un joueur au monde qui soit aussi doué que toi.
Il y a un joueur qui me fait peur.
Qui ?
Le Russe.
Don't make me over.
Cet homme est champion du monde.
Je suis censée aller en Russie, mais ce que je veux, c'est boire.
Je m'inquiète pour toi.
Don't make me over.
Pourquoi ? Je vois pas pourquoi. Peut-être que c'est dans mes gènes. Ma mère est devenue cinglée.
Elle l'est devenue ou elle l'a toujours été ?
Je sais même pas si je suis assez bonne.
T'es la meilleure qui soit.
Tu as un talent inouï. Mais tu devras en payer le prix. Difficile à dire quel en sera le montant pour toi.
The Queen's Gambit, ou Le jeu de la dame, est un drame américain diffusé sur Netflix le 23 octobre 2020. Cette mini-série de 395 minutes a amassé plus de 62 millions de spectateurs durant son premier mois de visionnement sur la plateforme de streaming. Au niveau de la réalisation, eh bien, on y retrouve Scott Frank, qui a réalisé la mini-série Godless et A Walk Among the Tombstones. Du côté des producteurs, on y retrouve Marcus Lodges, ce producteur américain qui nous avait donné Cloud Atlas. Scott Frank, ce producteur américain qui nous avait donné Godless et The Caveman's Valentine. Mick Anicetto, qui est ce producteur américain qui avait travaillé sur la mini-série Godless. Et également Alan Scott, ce producteur écossais qui a travaillé sur Darkseid, The Fourth Angel et The Match. Scott Frank allait également être responsable du scénario, lui qui avait déjà travaillé sur les scénarios de Minority Report, Logan et The Wolverine. Au niveau de la distribution, on y retrouve Anya Taylor-Joyce, Isla Johnston, Bill Camp, Christine Settle, Marielle Heller, Harry Melling, Jacob Fortune Lloyd et Marcin Dorosinski. Cette fiction suit l'orpheline Elizabeth Harmon, une prodige des échecs, dans sa quête pour devenir la meilleure joueuse des échecs du monde, tout en luttant contre des problèmes émotionnels et une dépendance aux drogues et à l'alcool. L'histoire commence au milieu des années 50 et se poursuivra dans les années 1960 et couvrira la période où Elizabeth sera alors âgée entre 8 et 22 ans. En 1983, l'auteur Walter Tevis allait publier un livre intitulé « The Queen's Gambit » qui explorera la vie fictive d'une jeune femme, prodige du jeu d'échecs, qui devra combattre sa dépendance à l'alcool et à la drogue afin de devenir une championne du monde dans ce sport intellectuel ayant une dominance masculine. Travis était lui-même un joueur d'échecs et devra attendre plus d'une trentaine d'années avant de voir son roman adapté au petit écran. Il est à noter que le titre de Queen's Gambit désigne une ouverture de jeu d'échecs très populaire, appelée en français le Gambit Dame ou Gambit de la Dame. Le titre réfère à l'ouverture de la dernière partie de la mini-série, mais également à la position de Beth qui doit s'imposer dans un monde d'hommes. Initialement, c'est le journaliste du New York Times, Jesse Cordbluth, qui va acquérir les droits en 1983, mais le projet fut annulé suite au décès de Tevis en 1984. En 1992, ce sera le scénariste-producteur écossais Alan Scott qui allait acquérir les droits cinématographiques du livre de Tevis via la veuve de ce dernier et écrira un scénario qu'il cherchera à réaliser avec plusieurs metteurs en scène de talent tels que Michael Apt et Bernardo Bertolucci avant de placer ses espoirs en l'acteur Heath Ledger, dont il devait s'agir ici de la toute première réalisation en carrière et qu'il aurait mis en scène aux côtés de l'actrice Ellen Page, qui devait alors interpréter le personnage de Beth. Malheureusement, Ledger décédera en janvier 2008, mettant un terme au projet pour plus d'une quinzaine d'années. Après le succès de sa mini-série pour Netflix Godless, le scénariste-réalisateur Scott Frank se montrera intéressé par le dit projet et décidera d'en faire sa prochaine mini-série. Lui et le producteur Alan Scott proposèrent alors le projet à Netflix, qui donnèrent alors le feu vert pour une mini-série de 6 épisodes. On approchera alors le producteur William Horberg, qui avait déjà travaillé sur un film portant sur les échecs quelques années auparavant, intitulé « Searching for Bobby Fischer ». Très rapidement, la série de 6 épisodes obtiendra un épisode de plus de la part de Netflix suite à l'écriture du dernier jet de Scott Frank. Dès la commande de la série, l'actrice Anya Taylor-Joy, que l'on venait de voir dans le drame fantastique The New Mutant, sera annoncée dans le rôle principal. L'actrice aurait accepté de jouer Beth Harmon avant même d'avoir lu le script, donnant son accord au créateur de la série, Scott Frank, après avoir lu le roman de Walter Tevis. Du côté de la photographie, le réalisateur y recherchait le directeur photo Steven Mesler, avec qui il avait précédemment travaillé sur Godless. Le producteur-designer allemand Ulay Anisht, qui avait travaillé sur le film Cloud Atlas, se joindra également à la production. Comme la plupart des drames sportifs bien réalisés, le spectateur ici n'a pas nécessairement besoin de comprendre les règles précises du jeu tant qu'il en comprenne les règles de base. Mais le réalisateur souhaitait que les parties d'échecs soient véritablement plausibles, et ça pour un auditoire de joueurs ou de gens qui connaissaient le sport. C'est la raison pour laquelle Scott Frank est recherché l'ancien champion du monde d'échecs Garry Kasparov, ainsi que l'entraîneur d'échecs Bruce Pendolfini, qui avait également travaillé sur Searching for Bobby Fischer en tant que consultant. Pendolfini avait également servi de consultant à l'auteur Walter Tavis lors de l'écriture de son livre The Queen's Gambit. Parce que la majorité du tournage allait se situer à Berlin, la majorité des rôles secondaires seront occupés par des acteurs britanniques et allemands. Le reste du tournage, lui, sera réalisé en Ontario, au Canada. Lors du tournage, l'actrice Anna Taylor-Joy apprenait ses mouvements de pion sur l'échiquier seulement 5 minutes avant de tourner sa scène, car il lui était impossible de pouvoir jouer ses parties de mémoire, notamment dans des séquences où elle doit jouer contre plusieurs joueurs à la fois. Le match le plus compliqué fut la dernière partie de Beth Hammond contre le champion Vasilij Borgov. En effet, la partie ainsi que sa conclusion devaient être complexes, reflétant le niveau très avancé des joueurs. Après plusieurs recherches, le consultant Garry Kasparov s'inspira de la partie de Patrick Wolf contre Vasilij Ivanchuk durant le Festival d'échecs de Bienne en 1993. D'ailleurs, les personnages de Beth Harmon et du grand maître fictif Vasilij Borgov sont le résultat de la synthèse de plusieurs joueurs historiques, dont la Hongroise Judith Polgár, Anatoly Karpov et l'affrontement du siècle en 1972 entre l'Américain Bobby Fischer et le Russe Boris Spassky. La série recevra beaucoup d'éloges de la communauté des échecs pour sa représentation du jeu et des joueurs, tout spécialement de l'ancienne championne d'échecs Judith Polgár, qui salua la performance incroyable de la série. The Queen's Gambit a été aussi louangé pour la qualité des costumes. La costumière Gabrielle Binder, connue également pour son travail dans The Life of Others en 2006 et In the Land of Blood and Honey en 2011. La mini-série va alors provoquer un regain de popularité pour le jeu d'échecs à la fin des années 2020, alors que la majorité de la population mondiale était de nouveau en confinement à cause de la pandémie de la COVID-19. Plusieurs millions de jeux d'échecs seront alors vendus à travers le monde suite à la présentation de la mini-série sur Netflix. The Queen's Gambit remportera toutes ses nominations au Golden Globe Award, principalement pour la meilleure mini-série et ainsi que la meilleure actrice dans une mini-série dramatique. Du côté des points positifs, c'est l'interprétation d'Anya Taylor-Joy qui est pratiquement parfaite, elle qui montre son talent et qui tient sur ses épaules pas un simple film de 2 heures, mais une mini-série de plus de 7 heures, ce qui est tout un exploit. De plus, la distribution qui l'entoure est également exceptionnelle, mais soyons honnêtes, Taylor-Joy vole ici tout simplement la vedette. Du côté de la mise en scène, celle-ci est soignée et réfléchie, et le metteur en scène sait comment garder notre intérêt, même dans les moments lourds de l'histoire. D'ailleurs, une des grandes forces de The Queen's Gambit est cette facilité désarmante qu'a le réalisateur de bien calculer ses moments difficiles avec ses longueurs et de les éviter en nous présentant alors un événement qui gardera notre intérêt au moment même où celui-ci risquerait de s'estomper. Le style de narration du scénario parvient à personnaliser le jeu et ses joueurs. De plus, le réalisateur se permet même de briser à plusieurs reprises la loi du quatrième mur lorsque le personnage principal regarde l'objectif de la caméra, mettant le spectateur à la place de l'adversaire de cette dernière et nous impliquant ainsi personnellement dans l'histoire. D'ailleurs, le scénariste-réalisateur parvient à nous démontrer l'évolution du personnage de Beth à travers son habillement et sa chevelure tout au long de la série. De plus, cette dernière se sert des hommes de son entourage, tels des pions sur son échiquier de la vie, où elle cherche à se créer une personnalité personnelle et professionnelle dans ce monde dominé par le sexe masculin, tout en combattant ses peurs internes qu'elle cherche à faire disparaître avec sa dépendance aux drogues et à l'alcool. La direction photo est tout à fait sublime, tout comme la beauté des décors qui hypnotisent le spectateur, même dans des séquences où l'action est en mode pause. Il faut souligner ici l'exactitude de la reproduction historique des scènes de cette série qui se déroule majoritairement entre les années 50 et 60. Quant au montage et à la musique, ces deux parties de la production sont également parfaites pour le visuel, parvenant à s'effacer dans les moments calmes, mais qui deviennent d'une précision exemplaire lorsque l'histoire le demande. Comme je l'ai dit plus haut, vous n'avez pas besoin de comprendre le jeu d'échecs et ses règles afin de savourer cette mini-série, le réalisateur trouva le moyen de rendre les scènes de jeu ultra intéressantes sans nous perdre dans la complexité de ce sport, quelque chose qu'on avait déjà vu dans Searching for Bobby Fischer. Du côté des points négatifs, je pense qu'on aurait pu faire sauter un épisode puis vraiment condenser le tout en 6 parties, certaines séquences nous donnant quelquefois l'impression de déjà-vu et de perte de temps et même par moments certaines petites longueurs. De plus, malgré la performance extraordinaire d'Anya Taylor-Joy, le personnage de Beth est presque invisible, celle-ci étant présentée comme la terminatrice des échecs, ce qui enlève quelque peu la crédibilité de son personnage. Elle aurait dû perdre plus souvent à ses débuts, ce qui aurait montré une évolution plus logique de sa qualité de joueuse. Mais malheureusement, ici, on nous dépeint un personnage pratiquement parfait, dont les seules failles sont ses problèmes personnels ainsi que ses dépendances à l'alcool et la drogue. Donc, on perd un petit peu, quelque peu, l'aspect humain de l'individu qui ressemble beaucoup plus à un ordinateur sur deux pattes qu'à un humain qui vit des problèmes internes. D'ailleurs, cet aspect de traverser des difficultés sans accroc pourrait devenir même irritant pour certains. Dès que son personnage principal vit des moments extrêmement difficiles où elle perd totalement le contrôle, celle-ci revient à la charge d'une façon très focussée, comme si ce qu'on vient de voir ne serait jamais arrivé. Habituellement, le problème d'une dépendance aux drogues et à l'alcool, ils ont des effets beaucoup plus longs. Là, ici, on a l'impression qu'il n'y a aucun effet secondaire, ce qui enlève aussi une certaine crédibilité à l'histoire. Mais malgré tout ça, The Queen's Gambit demeure un spectacle qui est fascinant, qu'il vous faut voir absolument. Du côté de la musique, c'est le compositeur américain Carlos Rafael Rivera qui avait travaillé sur Dragonfly, Feast, Crash et Godless, qui est parvenu à convaincre Scott Frank, qui désirait avoir une trame sonore qui utiliserait seulement un piano, et d'y aller véritablement avec un orchestre symphonique, ce qui donne beaucoup plus de profondeur, je trouve, à la série télé de Queen's Gambit. Donc, je vous donne ici un extrait de la trame sonore de la mini-série de Queen's Gambit. We'll be right back. Pour les cotes artistiques du côté de Searching for Bobby Fischer, eh bien, Mediafilm cote le film 4. Moi, j'y vais avec un 2. Personnellement, je pense que ça devrait être un 3. Je pense qu'il est coté 4 du côté de Mediafilm parce que le film a beaucoup de longueur. Moi, personnellement, je trouve que le scénario est super bien écrit. Je trouve que les acteurs sont parfaits. Donc, j'y vais avec un 2 là-dessus. Du côté de The Queen's Gambit, eh bien, Mediafilm, il n'y a pas de cote étant donné que c'est un film qui passe en streaming sur Netflix. Moi, j'y vais avec une cote 2 également. Encore là, excellent. Belle mise en scène, belle façon de nous présenter l'univers des jeux d'échecs. D'ailleurs, si vous voulez vous familiariser avec cet univers-là, je pense que ce sont les deux meilleurs films à regarder. Au niveau des âges et du contenu, eh bien, dans les deux cas, que ce soit pour Searching for Bobby Fischer ou The Queen's Gambit, les deux sont côté général du côté de la régie du cinéma. Moi, j'y vais également avec des cotes pour tous. Searching for Bobby Fischer, eh bien, le film est disponible qu'en DVD, malheureusement, en français et en anglais, alors que du côté de Queen's Gambit, eh bien, actuellement, au moment de la réalisation de cette émission, la mini-série est actuellement en streaming sur Netflix, donc elle n'est pas disponible dans d'autres formats au moment où on se parle, mais ça sera surveillé dès que vous avez la chance de voir cette série-là en DVD ou en Blu-ray. Sautez dessus, ça vaut vraiment la peine. C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Juste vous rappeler, si des fois vous voulez nous suivre, vous n'avez qu'à vous inscrire à la page Facebook de Programme Double. À ce moment-là, vous serez averti à toutes les deux semaines de la journée où sera diffusée notre nouvelle émission. Ou encore, vous pouvez tout simplement aller également sur la page web de fantasticaradioweb.com dans laquelle vous allez avoir une section podcast. Si vous cliquez sur cette section podcast, vous allez voir plein de sous-sections, dont une qui va s'intituler Programme Double. Lorsque vous cliquez là, vous allez tomber sur la page officielle de Programme Double, sur laquelle vous allez trouver toutes les explications au niveau des cotes artistiques que je donne au film, en plus d'avoir un résumé de qu'est-ce qu'est le podcast, mais surtout, vous allez avoir tous les liens, que ce soit les liens pour la page Facebook, les liens pour l'adresse email, si vous avez des fois des suggestions de films que vous aimeriez que je parle, ou encore des commentaires à faire. Et finalement, eh bien, vous avez le lien qui vous amène sur l'application de Programme Double, une application où vous serez capable d'aller voir tous les films dont je vous ai parlé depuis la création de ce podcast. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours suivre également mon autre podcast qui est Fantastica Radio Web, un podcast où on parle de différentes passions, une émission de 3 heures, contrairement au podcast de Programme Double qui, lui, n'est qu'un maximum de 1 heure à tous les 2 semaines. Donc, encore une fois, un gros merci d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine de Programme Double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.